The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 285 de la French Connection. Cette semaine, on est avec la voix de la cybersécurité, M. Steve.
Bonsoir. Bonjour.
Yes, on est avec Jacques. Really?
Hello. Bonjour. Really?
Really? Uh-huh. Et Richer. Salut, mon Richer.
Salut.
Salut, salut. Hey, cette semaine, on a une petite liste de shameless plugs. On en a une couple. Toujours, comme d'habitude, rejoignez la communauté de cybersécurité sur discord.ecfest.ca. Et dans les événements à venir, pas mal jusqu'au mois de juin, ouais. On a la semaine de la protection des données qui est du 26 au 30. Est-ce qu'il y en a que, Steve, Jacques, vous donnez déjà des présentations là? Je ne sais plus.
Non, à date,
Je l'ai mis dans la liste, justement, Pat.
Ben, je sais, mais je ne sais pas lesquels que vous donnez ou vous ne donnez pas. OK, fait que Steve, tu vas être là. Good, good, good.
Moi, le deuxième, là, selon l'annonce de la semaine, là, donc je vais présenter avec la compagnie Orizo sur le Privacy Day 2026, qui ont appelé ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait l'anglicisme, mais on va parler justement de souveraineté des données dans l'info-nuagique, puis comment comprendre que ce n'est pas juste le fait de mettre des données dans le pays ou en province que ça va faire la différence.
Ben oui, ben bienvenue en 2020. Mais je suis content que le monde commence à en parler finalement. Ça fait même les nouvelles à cette heure.
Ouais, mais c'est pas toujours les bons arguments qui reviennent dans les nouvelles, justement.
Non, pas les arguments, mais au moins, il y a du monde qui parle qu'on devrait arrêter de dépendre des autres pays. Là. Ça a pris tout ce bordel-là.
Yep, yeah. Merci le 47e président pour ça.
Ouais. Pas merci pour le reste, là, méchant bordel pareil. Fait que Privacy Day, ça va être 28 janvier. Ensuite, on a la conférence du Centre international de criminologie comparée qui va avoir le jeudi 29 janvier Bruce Schneier qui va être là de 4 à 5 heures. Donc, allez voir cette vedette internationale. Toujours un bon petit mot cool qui dit. Ensuite, on a Défense, saisir les opportunités de marché stratégique à Saint-Hubert le 20 février. Tu dois te donner quelque chose là aussi ou? Première fois que j'entends parler de ça.
Laquelle?
Défense stratégique.
Non, au contraire, c'est dans le contexte donc, de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Vous allez en voir passer de plus en plus de ces genres de conférences-là en 2026, puisque le programme de certification de cybersécurité du Canada prend forme, a pris forme, c'est-à-dire, puis là, il va être enphasé. Et ça, c'est pour s'assurer que les organismes appliquent les meilleures pratiques de cybersécurité en vue d'être certifiés avec le PCC. Il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est une autodéclaration comme le CMMC version 1 ou comme Jacques fait avec les certifications du CAN DGSI 104. Et ça permet à ce moment-là de prouver avec un audit à l'appui comme quoi que les organismes travaillent intelligemment et sécuritairement avec l'information et avec les processus autour. Donc, c'est une conférence dans l'aérospatiale donnée à Saint-Hubert sur comment faire en sorte qu'on va améliorer toutes ces belles affaires-là.
Wonderful, wonderful. AdSecCon à Halifax, c'est 9 et 10 avril. CyberEcho, 28-29 avril. NordSec, 11 au 17 mai. ITSec qui revient à une certaine date qu'on ne sait pas encore.
Non.
Ensuite, on a la matinée conférence CPQ que je ne connais pas non plus, le 29 mai. Toi non plus? OK, cool.
Non, j'ai trouvé ça dans le catalogue, puis j'ai dit, ah, tiens, on va le mettre là.
Et le Consortium national de cybersécurité du 16 au 19 juin. Et on a aussi le IAC qui sera le 30 ou 31 mai. J'ai oublié lequel qui est un samedi, mais ça sera le samedi d'une de ces journées-là. Donc, on cherche du monde justement pour l'IAC pour hoster dans plusieurs villes. Donc, si vous êtes dans une certaine ville, Québec, Montréal, France, Belgique, whatever, écrivez-nous. On aimerait ça avoir une petite journée de sécurité avec vous autres. Donc, on commence ça direct avec M. Jacques et on parle du sujet qui ne meurt jamais, les ransomware.
Oui. Fait qu'on rapporte qu'en 2025, les attaques de ransomware ont explosé. Hein? Fait que ça s'en va en augmentant. Plus de 4700 incidents qui ont été revendiqués et plus de 6100 cas si on compte aussi les campagnes d'extorsion basées seulement sur le vol de données. Parce que ça, c'est une des choses qui change. C'est plus juste question de rentrer puis envoyer le rançon shell. On se borne même plus avec ça. Ça, on fait juste extorquer pour les données. Fait que ça représente... représente environ 23 % de hausse par rapport à 2024. Donc, clairement, ça ralentit pas. Même quand les gros joueurs comme Lockbit et Ransom Hub se font fermer, les affiliés se recyclent vite puis ils vont vers d'autres gangs. Puis certains groupes comme Akira et Quillen, qu'on a vu, là, Quillen, qu'on a vu beaucoup dans la dernière année, représentent chacun à eux seuls autour de 16 % des attaques. Fait que c'est des gens qui sont très occupés. Fait qu'au final, le ransomware aujourd'hui, c'est plus juste tes fichiers sont chiffrés, fait que paye, c'est on vole complètement tes données, puis in and out très rapidement, un peu comme aller chercher Maduro, et puis on a tes données, fait que paye, sinon on les publie. Fait que toujours à la hausse.
Toujours à la hausse, ça fait quoi, 2017 à peu près, 2018, qu'on a commencé à parler de ça avec Damien.
Voilà.
Il était comme dans les premiers à nous jaser de tout ça, puis ouais. Continue, c'est un beau bordel.
D'ailleurs, au Hackfest, je pense que j'en ai parlé dans un autre épisode ou peut-être au Bye Bye, mais quand j'avais parlé aux gens de TELUS, ils m'avaient dit qu'ils vont publier leur rapport dans le premier quart de cette année. Puis le petit spoiler qu'ils m'ont donné, c'est que le prix de moyenne de rançon payé au Canada, c'était 140 000 le 3 ans dans leur rapport. Là, ils disent que ça baisse plutôt vers 76 000. Cependant, il y en a beaucoup plus. Fait qu'on y va pour le volume.
Oui, le volume avec les plus petits joueurs qui payent moins cher, mais au final, tu fais plus d'argent pareil.
Ouais. Voilà.
Qui retombe sur le fait que... Oui, puis tout le monde est une cible, là, dans le sens que c'est pas parce que tu es plus petit qu'ils iront pas, parce qu'ils vont juste te prendre 5 000$ au lieu de 500 000.
C'est ça.
C'est pas mal ça, leur jeu là-dessus. Steve, t'as plein de belles nouvelles de leaks puis de trucs du genre. Commençons donc avec... un massif data leak, d'un, c'est-tu vrai? Puis de deux, c'est quoi l'impact, ça? Gmail puis Instagram.
Je t'arrête dans tes cracks. J'ai une primeur flash à vous communiquer.
Oh, nice, go for it.
Dans l'instant, ça vient de popper sur le radar. Stand by, je te mets ça dans la liste. Dans l'instant, tu vas triper ton jour. Ça se dit, ça, oui. Google va payer 68 millions dans une action judiciaire pour enregistrement illégal de la voix sur leurs produits. En cette semaine, la protection des données personnelles, c'est une maudite bonne façon de commencer cette semaine-là.
Parfait, ça.
Donc, autrement dit, tous ceux et celles qui ont un produit Google, qui disaient « Hey, Google, pour commencer à faire des interactions vocales, ben regardons ça, ils enregistrent. » Fait que tout le monde, là, qui les sommités, là, pour dire non, ça n'existe pas, ça n'enregistre pas, ça fait juste interpréter les commandes. Bam! Comme on dit en anglais, dans votre visage.
Mm-hmm. Hey, mais ça fait beaucoup de monde que j'entends, surtout ceux qui ont des appareils Google, qui disent « Hey, on faisait juste parler de ça, ma femme et moi, puis le lendemain sur Facebook, j'ai plein d'annonces de ça. » C'est sûr que ça écoute. Là. C'est la vieille joke que j'ai déjà répétée. L'autre jour, j'ai dit une joke à Claire, puis elle a ri, c'est ri, a ri, puis...
Puis Zuckerberg aussi, oui, c'est ça.
Alors, fait que, Caroline, ça, là, mais écoute, je le dis souvent dans mes exemples, tout ce qui est interfaçage vocal, comme exemple Alexa, qui a été cité à comparer dans des cas de meurtre aux États-Unis en cours, puis ils ont eu un subpoena pour envoyer les enregistrements. Christy, il y avait les enregistrements intégrales, la conversation qu'il y a eu dans la maison entre telle heure et telle heure de cette date-là. Fait que, bang, là, c'est le tour à Google de se faire clouer le clapet.
Parfait. Finalement, 68 millions, c'est pas grand-chose, par exemple. J'aurais pu mettre un zéro de plus, là.
Ouais, parce que sinon, ça ne les fera pas réfléchir.
Mais non, 6 milliards, peut-être. Non. 68 millions, ça équivaut à peu près à 20$ là, pour quelqu'un de normal. Ça n'a pas de sens.
Est-ce que j'ose le répéter? La vie privée, ça n'existe plus.
Ah, oh, t'es négatif, arrête.
Really?
Non, OK, excusez-moi.
Bon, ça existe plus beaucoup, mais il ne faut pas abandonner. Il y a deux choses différentes. Ah non, mais continue pour vrai avec le data leak de Google puis Instagram.
Ah, ça, c'est une autre affaire qui était. Pendant que je faisais mes. Je ramassais mes, mes nouvelles ce soir, justement, là, ça ressort, Christy. 48 millions de personnes que leur vie privée va en manger une claque encore. Et une autre couche qui se rajoute sur le dessus. Sur le fait que 48 millions d'adresses e-mail, Gmail, de comptes e-mail auraient été compromis. 4 millions de Yahoo, ça c'est dans le passé, tu sais, 1,5 million avec Outlook, etc. T'sais. Fait qu'il y en a toujours qui arrivent comme ça, mais que ça dans ce cas-ci, ils disent que ça a vraiment été contributif à exposer toutes ces affaires-là. 1,4 million d'adresses EDU, ça c'est des comptes universitaires américains, mais 900 000 iCloud à travers tout ça, 17 millions de comptes Facebook seraient touchés par ça, 6,5 millions d'Instagram, 780 000 de TikTok, 3,4 millions de Netflix, 100 000 d'OnlyFans, ça c'est pas grave, puis après ça, 420 000 de Binance. Autrement dit, ça va brasser. Certaines informations qui a fuité d'une base de données représenteraient 400, 96 gigabytes de tout ce qui est de nom d'usager, mot de passe. Fait que ça va être en mesure d'être intéressant de suivre ça parce que la solution là-dedans, ça va être encore une fois de se regarder le derrière pour se faire avoir. Et tu es celle qui a un compte dans qu'est-ce que j'ai nommé, comme Gmail, Yahoo, Outlook, iCloud, un compte universitaire, Facebook, Instagram, TikTok, Netflix, OnlyFans, puis Binance. Ben, guess what, ça serait peut-être une bonne affaire de changer de mot de passe.
Moi, tu me stresses là, avec mon compte OnlyFans. Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Non, ben, je sais bien, vieux, mais je voulais juste que tu le saches avant que ça t'arrive. Tu sais.
Alors, c'est bien que tu me le dises.
Parce que si tu consommes ton compte OnlyFans, il va venir te faire mal aussi.
Oui, non, mais c'est une bonne affaire de. Pas le compte OnlyFans, mais c'est une bonne affaire. Ce genre d'affaire-là, 96 gigs. On s'entend, là. C'est tout à. Imagine tout en texte, là, cette affaire-là. Là.
Oui, parce que tu as un exemple dans l'article, là, puis il te le montre là, dans la base de données, qu'est-ce qui a été cherché. Tu le vois, l'URL pour lequel, avec le compte, avec l'adresse email, puis le mot de passe, tout est là.
Mmh. Oui, non, ça, c'est. Oui, on s'entend. C'est du data à tabarouette. Puis est-ce qu'il y a une façon, dans le fond, pour continuer avec ça, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut aller le vérifier, qu'il est legit, qu'on peut vérifier si notre compte est là-dedans?
Ou on peut le domper? Je te devançais dans l'idée. Je suis sur le site. Il va peut-être les. Moi, je dirais qu'il va peut-être l'envoyer vers choses en Australie. Là. Mais regarde, ouais, là, l'article original, là, je vais mettre ça dans le chat.
OK. Logiquement, okay. Oui. Puis voilà quelques semaines. Beaucoup, beaucoup de personnes, dont moins certains autres, ont reçu un email pendant la nuit de password reset d'Instagram.
Ah, pas mal. Oui,
j'en ai eu plein, moi.
J'en ai eu plein. Mais ben, c'est relié à ça. C'est les emails qui ont leaké d'Instagram. Je pense pas qu'il y avait les passwords, donc ils faisaient des resets sur tout le monde.
Ouais.
Je ne sais pas pour faire quoi. Là. Peut-être qu'il a réussi à compromettre certains emails puis aller les chercher par après, whatever. Évidemment, tout ça est automatisé. Mais oui, cette journée-là, il y avait un post sur LinkedIn. Là, puis ça disait, hey, si vous n'avez pas votre 2FA là-dessus, mettez-les parce que ça s'en vient les passwords qui doivent être leakés puis ça doit être lié pas mal à ça.
J'imagine qu'éventuellement, Troy va mettre ça dans Have I Been Bound.
Ah, mais c'est ça, je disais, Jacques. Là, il
ouais, c'est ça. C'est
le gars va envoyer ça en Australie. Là.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Ça aurait d'allure. Ben, du moins, le contraire, Troy va aller chercher cette base de données.
Ouais, ouais.
Consolider la sienne.
Clairement.
All right. Hey, continuons dans notre privacy, dans notre sujet de vie privée. Steve, la Chine qui a piraté des téléphones pendant des années. C'est quoi ça, Downing Street?
Downing Street, le 10 Downing Street, c'est la maison du premier ministre britannique. Et donc, on peut comprendre que c'est les hautes sphères du gouvernement britannique qui ont été épiées. Bon, mais Salt Typhoon, on les connaît, ce sont des groupes de pirates chinois et qui s'en prennent aux infrastructures essentielles, nommément donc en télécommunication pour Salt Typhoon envers des applications. Et ça a été vu, ils ont été vus dans 14 compagnies de télécommunications aux États-Unis, une au Canada, on l'a appris par la bande que c'est Rogers, et qui permettait de pouvoir épier les conversations texto et vocales. Rappelons à tous nos auditeurs qu'une conversation cellulaire, c'est nullement chiffré, j'insiste, Et quand on parle à travers une application, exemple comme Signal, bien là, oui, ça c'est chiffré, mais ça ne passe pas sur le canal audio normal du cellulaire. Fait que c'est de cette façon-là que là,
tout d'un coup,
le fax n'est pas sécurisé non plus. Le protocole T35, il n'est pas sécuritaire. Anyway, ça pour dire pourquoi c'est une révélation qui est là. En parallèle, ils viennent d'approuver la semaine passée la construction du plus gros ambassade au monde de la Chine dans le centre-ville de Londres, sur le long des axes des moyens de communication souterrains de la ville de Londres. Chapeau. Fait que donc, c'est pas surprenant. L'appareil, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, le consulat chinois à New York, pas loin de l'ancien porte-avions Forrestal, si mon souvenir est bon. C'est un bloc noir qui n'a aucune fenêtre. Fait que je ne sais pas si vous le savez, mais quand il n'y a pas de fenêtre, parce qu'il y a bien de l'activité qui se passe en dedans, ils ne veulent pas extérioriser quoi que ce soit. Mais ceci dit, c'est une révélation qui confirme un paquet d'événements comme ça et qui va donner lieu à peut-être les autres vont regarder comment ça se passe chez eux. Parce que quand on va parler plus tard, ben, on va en parler tout de suite. Là, le Canada veut favoriser l'importation de véhicules chinois ici. J'en ai parlé pas mal la semaine passée puis cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire...
module d'espionnage.
Oui, tu sais, le premier ministre de l'Ontario qui était dit « Hey, c'est un espion à quatre roues. » Bien, sur deux médias en Ontario, je suis allé y dire, il me dit « Soit que le premier ministre de l'Ontario est ignorant, ou bien il a juste oublié de mentionner que les véhicules européens, nord-américains, japonais et sud-coréens, bien, ils font la même affaire. »
Puis ça a été prouvé dans le rapport. Là, c'est une machine qui record tout. Là, c'est qui revend. C'est juste pas nos amis. Hein,
le Federal Trade Commission, la semaine passée, ont slamé GM avec son OnStar pour avoir revendu illégalement, donc sans le consentement des usagers, l'information perçue par ces véhicules. Fait que s'ils sont fait avoir eux autres, imaginez eux autres. Puis dans le rapport de Mozilla de 2023, de septembre 2023, ça disait clairement que 80% de tous ces fabricants revendent les données sans que le monde s'en préoccupe. Parce que...
Oui, puis on avait parlé de ça avec Dominique.
On avait parlé de Tesla, il y a un an ou deux, là, qu'il y avait des employés de Tesla qui regardaient les enregistrements dans les voitures qui venaient du monde.
Oui, c'est ça. Alors, tu sais, c'est une autre révélation que là, les gens sont là, ben là, on ne savait pas. Non, vous aviez choisi de l'éviter, vous ne vouliez pas le voir. Puis là, on est rendu là.
Et c'est dans les petites étoiles dans ton contrat d'achat de voiture que tu lis pas. Là.
Vraiment petit, oui.
Ouais.
Même place que pour la radio.
Faire quelque chose, autrement dit, britannique par rapport à ça. Ben, comment on sait se prémunir contre des compagnies ou des organisations comme ça qui épient nos communications? C'est déchiffré. Est-ce qu'on est d'un chiffrement assez fort? La réponse, c'est non. Dans le Grand Nord canadien, ils viennent de se péter les bretelles. Hey, on a mis en place un échange quantique, donc inviolable, de communication. Psst. Dans d'autres médias, je te l'ai dit, hey, ça fait 6 ans que les Chinois le font. Ça fait 6 ans que les Chinois ont un avantage stratégique envers le communication diplomatique, militaire et commerciale, pendant que, puis ils ont fait ça vite parce qu'ils ont été capables de voler tout ça à travers la planète et ils ont mis la recherche en fonction, autrement dit, ils l'ont mis en action, puis après ça, bien, ils l'ont commercialisé. Pendant que nous autres, on continue à se gratter la tête, savoir, bien, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, tout le monde est fier de dire, hey, là, on est rendu, nous autres, si on fait ça, bien, c'est ça, les autres, ils ont rendu fois 1000 qu'est-ce qu'on est supposé de faire depuis longtemps ici.
Ah, pas facile.
Excusez, je suis le porteur de mauvaises nouvelles ce soir. Là.
Ben non, t'inquiète. Mais sur ça, c'est tout le concept de souveraineté numérique, puis numérique, là, technologique. Je me souviens plus quelle émission de radio j'écoutais, mais la phrase était solide. Il expliquait que toute l'Europe, le Canada et autres ont décidé de virer à gauche sur le climat depuis, quoi, 10-15 ans?
Ouais.
Puis tout sur ça qui font du climat, c'est des voitures électriques, des panneaux électriques, des éoliennes, etc., qui nécessitent toutes des batteries, de l'électronique puis des métaux rares. Qui gère tout ça? La Chine. Fait qu'on s'est mis dépendant à 1000% de la Chine parce qu'on a décidé d'essayer de sauver quoi? Je pense que c'était 30 secondes de la Chine en 5 ans qu'on a sauvé avec toutes ces initiatives vertes-là.
Ouais, je suis pas surpris.
Quelque chose comme ça, au lieu de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme du monde pour ne pas être dépendant. On peut l'être un peu, là, mais là, on est 100% versus, je ne sais pas, 10, 20. Non, c'est fou là, quand tu penses à ça comme faux. La Chine, comme on en a parlé souvent, c'est un long game. Là. Elle est longue à maudit, la game.
Oui, puis ils ont tout à gagner, eux autres, ils n'ont rien à perdre. Fait que c'est pour ça que ils ont l'avantage encore, comme j'ai toujours dit, l'avantage est toujours à l'attaquant. Puis malheureusement, notre classe politique ne joue pas à armes égales. Autrement dit, il aime mieux garder ça les yeux fermés puis continuer à chanter puis dire non, c'est pas vrai. Mais c'est la réalité, messieurs, dames. Donc, nous reste-tu encore, malgré Jacques qui n'y croit plus, nous reste-t-il un brin de vie privée pour nous amener à comprendre qu'on va être capable de s'en sortir un jour? La réponse, c'est oui. Mais ça, il y a
des choix. Il faut faire quelque chose.
Ben voilà, c'est ça que je disais cette semaine. Il y a des choix à faire. Il y a une analyse de risque à faire. Puis après ça, il y a un choix à faire. Je me décrivais sur une émission avec Isabelle Maréchal, comme je me qualifie comme analogue. Mais être analogue aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ben, ça commence à dire, je suis capable de m'étirer le bras puis aller peser sur le piton pour allumer la lumière au lieu de prendre une application sur le téléphone. Ça s'appelle évaluer est-ce que la voiture que j'achète parle à l'Internet plus qu'à l'avance quand que je t'ai une lumière rouge. Tu sais, ça veut dire, c'est là que tu es obligé de revenir à acheter des chars usagés juste parce qu'il n'y a pas d'électronique qui jase trop là-dedans. Chanceux, là, celui, le véhicule que j'ai, là, c'est un 2013, juste avant que toute électronique qui parle trop arrive, puis je vais le réparer jusqu'à temps que je puisse plus, parce que j'en veux pas de char avec toutes sortes de bébelles qui jasent là-dedans.
Ouais, puis comme les All-Star, excuse, j'ai oublié le nom, whatever.
All-Star, les assistants. All-Star.
Ah oui, ils peuvent débarrer tes portes à distance, fermer ton char à distance.
Arrêter.
Si quelqu'un veut le faire, la police veut le faire, le gouvernement veut le faire, ils peuvent tout le faire.
Yeah! Exactement. Remote yes. Control.
Remote control. All right. Microsoft qui shut down Red VDS Cybercrime Subscription Service. C'est quand même cool. Une bonne nouvelle, ça aussi.
Genre. Ben oui, ça va un peu comme la dernière épisode qu'on a fait où j'ai fait quasiment rien des bonnes nouvelles. Hein, si en janvier 2027, donc ce mois-ci, là, Microsoft annonce avoir démantelé Red VDS, un service d'abonnement utilisé par les cyberméchants pour mener des fraudes massives à l'échelle mondiale. Fait que depuis mars 2025, l'activité liée à Red VDS aurait généré environ 40 millions de dollars de pertes déclarées. Ça, c'est rien qu'aux États-Unis. Fait qu'eux autres, ils vendaient à partir d'environ 24 $ par mois des ordinateurs virtuels jetables, des throwaways, souvent basés sur des logiciels non licenciés, dont Windows, permettant aux criminels d'agir de manière anonyme, à grande échelle, à travers les frontières. Hein, ces machines servaient à envoyer des campagnes massives de courriels d'hameçonnage, à héberger des infrastructures de fraude et à soutenir différents stratagèmes financiers. Fait que les pirates combinaient ces services avec des outils d'IA générative pour identifier les cibles lucratives et ensuite produire des courriels, des vidéos, des contenus audio extrêmement réalistes, allant jusqu'au face swapping, à la manipulation vidéo et au clonage de voix pour usurper l'identité des victimes. Fait que sur un seul mois, plus de 2600 machines Red VDS auraient envoyé en moyenne 1 million de messages d'hameçonnage par jour vers des clients de Microsoft. Donc, la plupart ont été bloqués, mais dont une petite proportion quand même atteint les boîtes des usagers. Fait que, au total, plus de 191 000 organisations dans le monde auraient vu des comptes compromis ou utilisés à des fins frauduleuses depuis septembre 2025. Fait que c'est beaucoup, là. C'est un impact particulier sur le secteur immobilier, la santé, les organisations communautaires. Fait que le point commun des attaques, les criminels s'infiltrent dans les échanges par courriel autour de paiements. On voit ça souvent, là, d'ailleurs. Ils modifient les instructions au moment critique pour détourner des fonds destinés à des transactions. J'en parle souvent dans mes formations, là, de faire attention, parce que quand il y a un compte qui est compromis, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont juste rester dans la boîte, ils vont garder les conversations. Puis là, quand le client dit « bon, j'envoie ça où, le paiement? » Là, on rentre dans la conversation, puis on donne les bonnes coordonnées. Hein. Fait quoi? Avec Microsoft, les autorités américaines, britanniques, européennes, fait qu'on voit encore la professionnalisation des services de cybercriminalité. Donc, plusieurs bonnes nouvelles depuis le début de l'année et une autre là, qu'on voit encore une fois.
Excellent. Hey, on continue encore en parlant de vie privée, mais sur une autre approche. La souveraineté numérique, vie privée, etc. sur les téléphones mobiles. Steve, tu as mis le Lynx Phone. Mais j'aimerais ça qu'on jump dans ce sujet-là parce qu'il y en a plein d'autres. Je suis en train de checker ça dans les dernières semaines officiellement. Je ne connaissais pas cela, mais j'en ai regardé plein d'autres. Pas facile. Ben, il y a deux choses. Ma première approche de vie privée, oui, mais aussi le concept de minimalisme, plus de notification. Retourner analogique un peu comme tu expliquais, là, retourner dans le passé parce que les téléphones, à part gruger ton temps, ça ne donne rien. Fait que ouais, parle-nous du Lexphone, mais après ça, on en check une couple d'autres.
Puis ce téléphone-là se veut d'être Back to the Future avec la belle ère qu'on se rappellera de BlackBerry. Et le concept d'opération se veut d'être un OS avec du Unix mélangé à ça, Linux, je devrais dire, et développe son propre App Store, si on veut dire, puis d'avoir ça le plus clean possible, tu l'as dit là-dessus. Pas rien d'avoir du commercial déjà connu, mais ils veulent développer plus avec des sources ouvertes et l'ouvrir à la communauté. Puis d'ailleurs, j'avais une conversation cet après-midi, Pat, avec... Son représentant, là, donc le chef aux stratégies et marketing, et il serait bien intéressé de l'amener dans le Hackfest, si jamais ça t'intéresse, afin de mettre à contribution la communauté. La communauté pourrait à ce moment-là s'impliquer pour développer.
Un beau test, ben oui, c'est ça.
Ben oui, puis après ça, faire du pen test sur l'environnement du téléphone, etc. Fait que tu en parleras avec la gang, puis si jamais c'est le cas, il y aura une rencontre au sommet pour impliquer la compagnie dans le Hackfest et. Après ça, ça devient justement un téléphone de la communauté. Moi, je le vois de même, en tout cas. Là.
Ben oui, c'est clair. Mais non, je te confirme tout de suite. Faisons ça. C'est sûr que oui. Puis, on a déjà regardé pour avoir un réseau cellulaire Hackfest à l'intérieur de l'événement.
OK.
C'est un peu compliqué, là, mais ça pourrait être le fun d'avoir ça. L'année passée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du mesh tastique. Réseau sur les zones légales là, que tu as le droit d'émettre du 2.4. Là.
Ben, ça, c'est les zones sans permis. Tu as le 900, le 49, ouais, le 900, 2.4, 5.8. Après ça, ça le va dans l'extrêmement haut, le 24, 60, 80 gigahertz. Là, fait que tu ne veux pas aller là. Mais effectivement, Pat, tu as raison. Je vois beaucoup d'articles et de gens qui commencent à en développer. Puis je pense qu'on m'en met une racine là, de mesh tastique.
Oui, ouais, puis on a... On a un channel sur le Discord, si ça vous intéresse, là, SDR quelque chose, où il y a beaucoup de monde au Québec qui déploie des nodes, des antennes, des relais, etc.
Ouais, puis pour ça, pour les auditeurs, là, le mesh tastique, c'est que ça devient un réseau, comme le réseau sans fil, le Wi-Fi, mais qui répond à aucun apport commercial. Autrement dit, un Wi-Fi, il faut que tu aies un routeur. Pour... Mais là, le mesh tastique, c'est que tu mets en fonction ton électronique, ton transmetteur et ton récepteur. Et ça pouvoir, vu que c'est le terme mesh, c'est pour avoir un réseau autonome et que les nœuds entre eux autres vont s'échanger l'information et c'est détenu par personne. Autrement dit, si tu ne dépenses pas un mensuel pour le mettre en opération puis l'entretenir. Oui, c'est à la charge de la personne qui met en opération le nœud. Cependant, les airs puis tout ça, ça devient free. Là. Tout le monde peut s'en servir n'importe où, n'importe quand. Fait que, ouais. Moi aussi, je souscris à ça puis je pense que Pat va le faire d'ici cet été. Là,
mettre ça on en a fonction, réussi, là. Je ne me souviens pas du terme, mais pendant l'Hackfest, on avait un node spécial qui s'appelait Hackfest qui est approuvé par une organisation qui gère certains concepts de node. Là.
Yeah.
Fait que non, super le fun. Allez faire ça sur Amazon et autres. Là, c'est un 30 à 80 $ à peu près pour avoir un module qui fonctionne avec un keyboard, là, un genre de petit téléphone tout intégré par défaut. Ou sinon, vous pouvez vous acheter des ISP32 et autres petits modules électroniques pour avoir le même concept.
Pat, pour en finir avec le téléphone,
oui, téléphone.
Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu vas souscrire à avoir ton propre numéro de téléphone, évidemment, parce que c'est de l'identifiant ici. Et après ça, tu vas être en SIP direct. Tu ne participeras pas à ce que je disais tantôt, à l'élément cellulaire qui n'est pas sécuritaire, mais tu vas rester en data. Et donc, quand tu es dans un réseau sans fil, comme dans un réseau, même si tu t'en vas dehors sur l'environnement cellulaire, mais tu vas parler vers le réseau data, ce qui le rend un petit peu plus difficile à intercepter. Fait que le chiffrement est à l'avant-plan dans l'usage de ce téléphone-là. Va faire en sorte que ça va garantir davantage sa sécurité sur son exploitation. Fait que le premier target de clientèle, ça va être le monde des affaires principalement. Et à date, là, il va se détailler autour de 1 000-1 200 $ canadiens pour qu'il commence à en opérer. Fait que le réseau de distribution, il est en
travail. Ça reste un full smartphone. Là.
Oui, mais contenu. T'sais. Fait que ça va être dans les semaines à venir qu'on va entendre parler qui va être les distributeurs, etc. Là. Fait que, il n'y aura pas de magasin, mais ça va être distribué quand même par des gens recommandés.
Hey, remonte-nous ça, Richer, si tu veux te de-blur again, puis nous expliquer.
Je comprends pas, ma caméra n'est pas à l'envers. Elle montre à l'envers, là, fait que c'est laid, là. Mais c'est ça,
ça marche.
Ah, ça marche? OK, bon. Dans le fond, le KeyDeck Plus, ça n'est un justement qui ressemble à un petit BlackBerry. Moi, dessus, j'ai branché. Tu peux brancher une antenne. Tu as une option pour pouvoir brancher une antenne supplémentaire. Le mien, c'est ça que j'ai. Il est serré. Mais ça, ce n'est un mesh plastique que j'ai updaté avec la dernière version. Puis la dernière version te permet, la dernière fois que j'avais utilisé, c'est que de base, c'était vraiment comme une interface qui était boboche. Mais après ça, c'était avec une interface avec l'écran tactile. Puis que tu as une belle petite page avec un GUI qui est intéressant à utiliser. Puis qui est bien le fun. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai branché ça. J'en ai une. J'en ai monté un système que j'ai besoin de. J'ai mis ça dans une boîte étanche avec un panneau solaire, une batterie, un sensor de température et de pression atmosphérique pour vérifier si la batterie va. Avec un chargeur de batterie dessus pour voir si la batterie ne va pas surchauffer dans l'appareil. Puis je vais pouvoir aller poser ça dans une tour d'antenne pour à 75 pieds dans les airs. Là. Je devrais pouvoir faire ça. Je voulais faire ça cet été et ça n'a pas donné, mais ça va être ça. Parce que j'ai dans l'idée de faire ça parce que justement être capable d'avoir, c'est un, tu sais, ça te permet de faire un petit réseau en cas d'urgence là, des fois aussi, là, ou juste des communications qui peuvent être encryptées. Donc ça, c'est le fun. Puis tu peux aussi faire des uplinks directement sur un réseau Wi-Fi, tu peux le mettre sur le net si c'est un serveur MQTT. Mais ça comme c'est là, c'est une belle petite bébelle. Une belle petite bébelle, justement, il m'a coûté à peu près 90$, quelque chose comme ça. Puis, j'en ai un, justement, c'est du LoRa. Pas LoRa Secor, mais pas comme les AI non plus, là. C'est pas la même affaire. Mais c'est justement, c'est du low radio. Low frequency radio, quelque chose comme ça.
Anyway, quelque chose comme ça.
Fait que ça, c'est bien le fun. Bien le fun, ce petit bébelle-là. Fait que ça c'est le fun parce que lui, il est autonome. T'sais, c'est sa propre machine qui peut être un point d'accès ou juste un client ou les deux. Puis tu peux t'en servir aussi pour faire un transfert de messages. Donc, quand tu passes à côté, tu peux faire transférer des messages, capturer les messages quand ils passent. Puis c'est bien le fun. Bien le fun. La batterie là-dessus, ça dure longtemps. Fait que c'est intéressant. Ça a l'air un peu comme une petite boîte imprimée 3D, là, mais c'est pas grave. Là, t'sais, je vous dis, mais pour la bébelle, c'est bien intéressant. Tu as déjà tout dessus. Autrement, tu as les Helltech, les V3. Les Helltech V3 qui sont à peu près justement 20-30$ sur Amazon. Ça coûte presque rien. Puis c'est avec ça que j'ai modifié ça. Tu as déjà un petit écran dessus. Puis tu as des boutons de sélection pour être capable de changer les options. Puis tu peux les reprogrammer. Donc avec les dernières versions, je pense que c'est 2.6.1, quelque chose comme ça. Un petit peu que je n'ai pas gossé dessus. Mais c'est ça. Ceux-là, dans le fond, c'est vraiment intéressant. Puis une fois que tu as configuré tes notes, tu as des channels que tu peux être connecté dessus. Tu en as un channel privé, tu en as d'autres qui sont publics. Puis tu peux avoir des petits messages qui apparaissent partout. Donc ça, c'est assez le fun. Assez le fun.
Très cool, très cool. Puis pour continuer sur les téléphones, ce que je disais, c'est que j'en cherchais un minimaliste. Bon, on les mettra dans les show notes. Puis minimaliste, c'est les téléphones où tu n'as pas le OS complet. C'est juste les applications de base. Tu peux texter. Certains offrent du web avec des écrans e-ink, fait que c'est très noir et blanc, très vieux, très de base. Certains, c'est des téléphones touchscreen, puis d'autres, justement, comme tu viens de montrer, Richer, c'est à la BlackBerry avec les boutons. Fait qu'on parle du Light Phone, du supposément un des meilleurs, le Mudita Compact, qui est un écran 4 pouces là, e-ink. Il y en a plusieurs autres, puis évidemment, dans le passé, mais il y a d'autres solutions. Au lieu, mettons, de racheter un téléphone, vous pouvez prendre votre téléphone puis le rendre dégooglé avec Graphene OS pour les Pixel Phone. Et vous pouvez prendre aussi le Purism, le Wise Phone, Boring Phone. Il y en a plein. Il y a les Pi Phone de ce monde, etc. Et c'est des beaux modèles qui permettent de finalement se déconnecter un peu de notre... je ne sais pas comment dire ça, de notre emphase sur les notifications, puis le scroll dooming, you know.
Notre addiction à ça. J'aimerais juste ajouter là-dessus que si, parce qu'il y a des applications aussi qu'on peut rajouter sur notre téléphone, je ne dis pas que c'est un remplacement, mais si tu veux tester pour voir à quel point ça pouvait être utile ou le fun d'utiliser ça, ou si tu trouves que finalement ce n'est pas pour toi, tu as des applications qui font le même job que, disons, le Light Phone, parce que l'option de pouvoir juste avoir ton écran qui est en d'écran, que c'est juste ça que tu vois, puis que tu as juste les options. C'est un peu comme un widget là, qui va être loadé sur, admettons, un iPhone ou sur un Android. Et tu vas avoir ces options-là.
Mais quand tu es accro, tu l'enlèves tout le temps. Ça te gosse.
Non, mais exact. Non, mais c'est de voir. Tu peux le tester pour voir ce que ça dit. Au lieu de t'acheter quelque chose, puis après ça, finalement, tu viens de dépenser de l'argent pour. Fait que c'est dans ce but-là que je disais ça.
Ouais. Parce que ça commence tout à 200-300$, je dirais, dans ces petites bébelles-là. All right.
Hey, Pat, tu sais que ton écran est vert encore, hein?
Ben, mon bord, je suis pas vert. Fait que si le résultat est vert, ben, ça va être l'épisode du Grinch.
Ben voilà, c'est officiel.
En tout cas, pour ceux qui écoutent l'épisode, si je suis pas vert dans l'épisode, ça veut dire que c'est ça, c'était juste live. Sinon, ben, ce sera la privacy.
You're a mean one, Mr. Grinch.
J'apparais normal chez moi, on verra. Yes, de ton côté, Jacques, on a la. On le sait depuis longtemps, mais ça continue et continue tout le temps. La cybersécurité, les dépenses continuent et continuent.
Hey, ben oui. Mmh. C'est ça. Là, encore là, il y avait un autre article là, que les dépenses continuent à augmenter, mais la business ne voit pas l'impact. Ils ont de la misère à l'expliquer. On dit que les budgets de cybersécurité augmentent d'année en année, mais les directions ont encore du mal à expliquer clairement quel impact ces investissements ont réellement sur la business, selon une nouvelle étude menée par Expel auprès de responsables sécurité et finances de grandes entreprises. Fait que là, c'est le fun. Ils ont parlé aux gens techniques et à finance. Et là, on s'aperçoit qu'ils parlent pas le même langage du tout. Pas une grosse surprise, mais l'étude montre que sur papier, les priorités sont alignées. Tout le monde reconnaît que la cybersécurité est stratégique et qu'elle soutient les objectifs de l'entreprise, pas seulement en TI. Mais en revanche, la confiance se casse quand on parle d'exécution. Les équipes financières jugent que les responsables sécurité peinent à traduire leurs projets en impact concret sur le risque et sur la stratégie globale. Un point clé du rapport, c'est que sécurité et finance ne parlent pas du même risque. Les équipes de cybersécurité pensent conformité, réputation, confiance client, alors que la finance, eux autres, ils raisonnent en perte financière évitée, continuité d'activité, temps et coût d'économie et coûts économisés.
C'est triste, là, ça fait 30 ans que tout le monde sait que la sécurité est supposée de parler de cash, que c'est ça.
Ben oui, on veut la même chose, mais on ne parle pas le même langage, c'est ça le problème.
Non, je sais, mais si vous travaillez en sécurité, évidemment, parler de cash, votre programme de sécurité doit refléter du cash, le nombre d'argent sauvé, ou tous les aspects d'une cyberassurance, ça sauve combien, ce programme-là, cette détection-là sauve combien. Mais tu as raison, la majorité ne le disent pas, ça. C'est sûr, tu t'en vas dans le champ si tu ne parles pas d'argent.
C'est ça.
La business, ça fait quoi? Elle fait quoi, la business? C'est quoi l'objectif?
Exact.
C'est juste l'argent. C'est rare un objectif, à part les OBNL et certaines charités, là, mais à part eux autres, le reste, ils sont là pour le cash.
Ben oui. Comment la sécurité peut aider l'entreprise à sauver du cash ou faire du cash? Fait que c'est ça. Puis moi, de mon côté, tu sais, quand j'ai partagé ça sur LinkedIn cette semaine, une des choses que j'ai mentionnées, on parle de grandes entreprises, évidemment, là, qui ont des groupes. Les VP, puis les CFO, puis tout ça, puis les CISO, puis les CIO, puis tout ça. Fait qu'on parle pas le même langage, malgré qu'on veut la même chose pour la business. Cependant, quand on ramène ça à la PME, un des gros problèmes que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent encore que la cybersécurité, c'est une dépense. Hein, ils voient pas ça encore comme un investissement, une façon d'assurer l'intégrité, la continuité de leur entreprise. Ça, c'est un message qui passe encore très mal en 2020. L'année commence.
Il y avait une discussion sur Discord cette semaine, je ne me souviens plus quand. Quelqu'un qui travaillait, je pense, avec un constructeur, une compagnie de construction, là, ou en tout cas similaire à ça, je n'ai pas les détails. Puis la personne a dit: ouais, mais là, j'ai investi 15 000 en cybersécurité là, ou en TI l'année passée, là, c'est pas mal trop. La compagnie fait des affaires comme des 20 à 50 millions. Mm. Ça chiale sur du 15 000, 20 000. Mais son entreprise, elle roule sur quoi, tu penses? Ses paiements et ses factures? Penses-tu que c'est du tapis et des rouleaux? Non.
C'est que le gars de TI devrait dire: si je tire la plug sur tous tes systèmes informatiques là, pendant une journée ou deux, quoi l'impact?
Ouais,
ben plus que 15 000.
Tu caches, hein? Ben, c'est ça. Vas-y, go, on l'arrache le fil.
Ouais,
c'est dommage, mais c'est par là qu'il faut aller. C'est par là qu'il faut aller. Ouais. Yes. Hey, parlant de crédit puis de carte, pas de carte, mais d'argent, je veux parler de la carte de crédit, le bug qui a été détecté chez Visa, Mastercard.
Ben oui.
Ça me fait rire parce que j'ai participé au développement de ça dans ma dernière job, de ce qu'ils décrivent là-dedans. Je ne sais pas, il est où le bug officiellement. Steve, si tu peux nous décrire un peu la problématique, mais on va en discuter.
Ben, ça part du concept de tokenisation. Tokenisation qui est répandue dans son usage de portefeuille de crypto-monnaie. Et évidemment, ils ont pris des témoignages de personnes qu'une fois que la carte de crédit a été déclarée volée, mais que les malfaisants ont été en mesure de reprendre et réassocier le token déjà généré avec les nouvelles cartes, puis continuer à frauder. Ça, c'est ce qui a été allégué. MasterCard s'est dit non, c'est impossible. Autant que je lève la question parce que moi, souvent, tu changes une carte de crédit, puis après ça, tu peux facilement continuer à faire tes opérations comme si de rien n'était, alors qu'il n'y a pas eu de. C'est un processus normalement qui est en back-end, mais que ça a été transparent de la façon que ça a été repris mm-hmm. pour continuer. Malgré tout ça, c'est certifié PCI DSS. L'article ne mentionnait pas comment est-ce qu'en profondeur le tout s'est opéré.
Non, c'est trop haut. Mais de ce que je comprends des systèmes que j'ai vus en place comme ça, là, ça parle de Uber. Fait qu'évidemment, je travaillais pour un compétiteur. Fait que je me doute que c'est à peu près la même technologie. C'est le même monde qui l'ont programmé des deux bords. Là. C'est pas mal
un peu monde là-bas. Là.
Les anciens d'Uber ont switché dans l'autre compagnie, on se comprend.
Ouais.
Mais le concept de tokenization, là, c'est juste que tu prends la carte de crédit, puis sur ton réseau, mettons, parce que ces compagnies-là, là, c'est pas des banques, ils font pas des paiements. Fait qu'ils utilisent Stripe, ils utilisent une banque, ils utilisent le système d'un système de paiement, puis ils font un iframe. Fait que le iframe a la donnée. Mais il faut quand même que tu associes la donnée dans ta base de données au paiement. Ouais. Fait qu'ils ont mis en place, là, je pense, avec HashiCorp, ou je ne me souviens plus quel truc, là, mais tu as un concept de tokenization où que tu peux storer le token de la carte de crédit. Mais c'est juste un numéro random, mais qui associe que telle personne a tel token. Mais quand la transaction se fait, le token call la compagnie qui, elle, a la vraie carte de crédit. Mais si ouais. la carte est expirée, le token n'a pas rapport là-dedans. Fait que je peux comprendre pourquoi que Visa, MasterCard disent c'est impossible. Mais le point que tu as dit, Steve, c'est quand tu as une nouvelle carte, puis qu'elle n'est pas expirée, mais qu'elle est nouvelle.
Ouais.
C'est le même numéro. Généralement, ils ne vont pas switcher le numéro à moins que tu dises qu'il y a une fraude. Quand c'est juste un upgrade, quand tu demandes une nouvelle carte, là, juste peser sur le piton nouveau, pour en avoir une autre, c'est le même numéro.
Mais là, c'est certain que ça va rester le même token. Là.
C'est ça. Fait que logiquement, c'est le même token. Mais si la carte est expirée, il y a toujours un check d'expiration. Ce n'est pas vrai que la carte va fonctionner. Si vous mettez votre carte sur des services numériques, quand la carte expire, ils paniquent parce qu'ils ne sont plus capables de te payer. Là. Fait que là, je pense que l'article est mal expliqué. Là. Ça se peut qu'il y ait un certain bug à quelque part si quelqu'un l'a mal programmé. Puis là, on parle d'implémentation. Je ne pense pas que c'est la faute à la banque. Vraiment, où quelqu'un a réussi à voler le compte. Comme on vient de dire, il n'y a pas assez de détails pour savoir le détail. Mais logiquement, ça fonctionne bien, la tokenisation, parce que tu fais juste transmettre un ID qui est associé à ton user, tu envoies ça à Stripe ou à autre, puis ils font le paiement. Mais eux, ils valident si c'est expiré ou pas. Là. Mais là, l'affaire de la fraude, peut-être que tu as raison. Quand il y a une fraude, s'ils ne désactivent pas la carte, puis ils ne changent pas le numéro, puis ils ne l'expirent pas, whatever, mais évidemment, ça peut continuer. Là. Le token, c'est la carte. Si la carte existe encore et ils ne l'ont pas annulée, on s'entend.
Et voilà.
C'est ça, ça fonctionne. Mais cas intéressant, ça se peut qu'on en voit d'autres que des comme ça. Fait qu'on verra ce que ça donne. Là. Yes, yes, yes. Fait que, ouais, ça fait pas mal de tours. Je sais que tu as d'autres nouvelles, Steve. Tu veux-tu faire un petit tour sur d'autres choses?
Ah non, je ne veux pas voler le show
ben non,
oui, Richer, là, je veux dire.
Excuse, c'est la fin, Richer.
Richer, mais une affaire qui est importante qu'on a vue cette semaine passée, là, tous ceux et celles qui protègent le disque dur d'environnement Microsoft, bien là, on apprend que Microsoft, les clés de BitLocker sont facilement exportables lorsqu'il y a des subpoenas qui arrivent par les forces de l'ordre, c'est-à-dire...
Ah, oui.
Disques durs vont être facilement exploitables ou regardés par les enquêteurs, si jamais c'est le cas. Alors, mettons, comme FileVault sur macOS, ben il est barré pour être barré, puis même le fabricant, il n'a pas accès. Fait que donc, ça, c'est une affaire à regarder, parce qu'il existe une méthode de ne pas laisser les clés de déchiffrement, autrement dit, les clés de BitLocker sur l'environnement Azure ou ailleurs dans Microsoft Cloud. Et ça, c'est juste une bonne stratégie peut-être de revoir ça. Si vous avez des informations très, très consistantes sur ces disques durs-là, puis vous ne voulez pas que la police voie ça gratuitement.
Il faut que ça soit configuré pour que, quand tu sais, comme moi, dans n'importe qui là, qui travaille avec Microsoft, quand dans Intune, quand tu mets des policies de BitLocker, typiquement, tu vas sauvegarder la clé dans le cloud. Là, c'est pratique. T'sais, l'admin peut avoir accès s'il y a un usager qui est barré. Ben, tu vas sur la machine ou sur son compte, les clés BitLocker sont là. Fait que là, ce qui sort, c'est que oui, Microsoft a ou pourrait être mandaté de donner ces clés-là. Microsoft, c'est correct.
Oui, il faut que tu l'enregistres dans une voûte de mots de passe qui n'appartient pas à la compagnie, on s'entend.
Ou il y a des outils RMM qui vont aller chercher la clé, qui vont se stocker dans la base de données de ton RMM. Fait que là, tu n'es plus
dans une voûte, ou etc. C'est comme tu dis, c'est très pratique. Puis pas juste pour Microsoft avec la souveraineté. Là, Bob qui va te pirater, je suis désolé, mais lui ici, il a accès là, s'il t'a piraté. Il va pouvoir en faire des trucs avec les clés. Oui. Non, fun, bon hein? Point. Très fun. Bon, moi, on avait une couple de bonnes nouvelles. Tu t'en penses, Mauricier, de tout ça?
Qu'est-ce que j'en pense? Les bonnes nouvelles. Ben, c'est le fun. C'est le fun, les bonnes nouvelles. C'est le fun. Non, mais c'est toute une bonne affaire. Mais c'est justement, ça m'avait intrigué un petit peu, là, l'histoire de Microsoft. J'avais pas investi dans le sujet. Mais donc, au final, c'est ça. C'est par rapport aux clés. C'est pas une question d'une backdoor. Là. C'est vraiment juste une question de clés. Parfait. Ça, c'était la partie que je connaissais pas. Fait que ça, c'est parce qu'autrement, si tu fais juste lire le titre de l'article, tu penses que bon, ben voilà, et voilà le backdoor. Fait que c'est un peu un problème. Donc, oui. Donc, c'est une bonne chose. C'est le genre de choses qui est intéressant de garder la pensée critique. Ça vient à ça. Là. Garder la pensée critique puis de pas juste s'enligner à lire en surface, prendre au premier degré et être influencé par ce genre de choses-là. Donc, c'est ce que j'aurais à dire.
Quelle sagesse.
Quelle profonde, oui. Quelle profonde.
Très profond, très profond. Mais là, ce qu'on parlait avant, au début de l'épisode, on avait notre numéro de téléphone que vous pouvez laisser des questions à Richer, mais je ne trouve plus le numéro. Le système ne veut pas me laisser me connecter. Ça ne va pas bien, mon affaire, pas en tout.
Non.
Fait que ben, le numéro sera dans les publicités et tout, je crois, là, mais non, il me sort rien le tannant. Ouais. Fait que c'est ça. Richer veut savoir, il sort pas dans mes recherches.
je veux encore savoir, mais c'est ça a l'air que je pourrais pas.
Ben qu'il envoie sur un channel Discord, qu'ils ont.
Ben ouais, on va ressortir ça, ça va être popé. Oui, oui, vous pouvez poser vos questions sur Discord aussi, évidemment.
Faire un canal, Richer veut savoir.
Oui.
Ah, c'est une bonne idée, on fait ça.
Je vais activer mes notifications de bord.
Juste pour que le monde te tague, pas sur tous les messages, c'est ça qui fait la différence.
Oui, c'est ça, exact.
Oui, oui.
Non, mais ben, c'est en face, c'est une bonne affaire. Si, juste comme pour, si vraiment on veut pas avoir des discussions et des choses, parce que tu sais, on niaise bien, là, je veux savoir, mais en réalité, ça va plus loin que ça. Là. On est capable de pouvoir avoir des discussions, puis vraiment entreprendre des d'argumentation par rapport à certaines choses, ça peut être super intéressant. Mais qu'on peut aller loin, puis des choses, des fois, on sera peut-être pas d'accord sur certains sujets, puis le fait de pas être d'accord, ça veut pas dire que quelqu'un... ça veut pas dire que de pas avoir raison directement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... comment je cherche mes mots à soir?
Ouais.
C'est de pouvoir... On n'a pas besoin d'avoir... Ça se dit mieux en anglais. No, you don't need to be right. You just need to do the right thing. So, de faire la bonne chose. Mais c'est en parlant et en discutant qu'on va être capable de pouvoir aller plus loin puis de pouvoir découvrir des affaires des fois qu'on ne sait pas. Fait que, donc, je veux savoir parce que je ne sais pas.
Mais moi j'ai un gros mystère que... que je comprends pas, que j'appellerai à la communauté. Là, si quelqu'un est capable de venir clairement nous expliquer ça, là. Pourquoi, quand tu t'achètes de quoi sur ta carte de crédit, mettons, là, puis là, tu regardes le soir, là, tu te logues dans ton compte de carte de crédit, voilà, la transaction est là, prête, là. Puis pourquoi, quand tu fais un paiement sur ta carte de crédit, ça prend 4 à 5 jours ouvrables? Y a-tu vraiment un gros centre d'appel, là? Puis là, toutes les transactions sont QA, puis il y a un humain qui est là, puis qui check, là, puis dit, bon, Jacques, y a-tu l'argent, je vais pas faire, qui va se loguer dans mon compte de langue, il va dire, bon, ben là, Jacques, il y a de l'argent, ouais, OK, on va approuver la transaction, ça sent là. Pourquoi ça prend 4-5 jours? Je comprends
ça
pas,
c'est les ordis. Processus que tu utilises. C'est lesquels?
Mais quel processus? C'est des ordis qui se parlent.
Non, ben, excuse, quel protocole qu'ils utilisent dans le back-end? Parce que là, t'as dit, le système bancaire est basé sur ces trucs des années 80, presque, là.
4-5 jours, voyons, envoyer de l'argent sur une carte de crédit, ça devrait prendre quelques secondes, minutes, max, là. Voyons,
oui, mais le pire, c'est que quand tu le payes live, ta carte de crédit, là, mettons que tu es à la limite et tu ne peux plus rien acheter, tu es au magasin. Tu poses ton téléphone, tu fais un paiement dessus, tout de suite, la seconde d'après, tu peux acheter ton truc parce qu'il y a du crédit qui est disponible. Mais l'appliquer prend quelques jours, je ne sais pas pourquoi. Là. Le montant va apparaître comme faux après quelques jours, mais ça, c'est le système de la banque qui est mal foutu.
Oui, mais moi, j'ai l'impression que je ne le sais pas, mais ce que je présume, c'est qu'à quelque part, ça peut être une façon d'éviter de faire des fraudes pour faire sortir de l'argent puis transférer pour une forme de blanchiment d'argent. C'est ce que je penserais. Ça peut aider. Ça peut dire que c'est ça. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir avoir plus de détails là-dessus. Mais c'est ce que je pense. Donc, j'aimerais pouvoir me faire prouver le contraire.
Je demande à la communauté. Là, s'il y a quelqu'un qui travaille dans le système bancaire ou des systèmes de carte de crédit qui serait capable de nous expliquer ça intelligemment, pourquoi ça prend 4-5 jours faire un paiement sur une carte de crédit, là, moi, je suis toujours voulu savoir ça.
Ben, c'est sûr que c'est relié à ce système, mais le... Tu sais, les nouvelles applications de finance, là, les Co-O, Wealthsimple, whatever, c'est tout instantané quand tu fais des transferts là-dessus. Là.
Sais-tu quoi? Quand moi, je suis à la Banque de Montréal. Quand je fais un transfert de Banque de Montréal à la Banque de Montréal, d'un compte à l'autre, des fois, ça peut prendre jusqu'à 10-15 minutes. Quand je fais un transfert de Co-O à mon compte Banque de Montréal, pendant 30 secondes, bing, bing, je reçois le courriel, tout est là.
Ouais.
Pourquoi?
Ben, c'est mal foutu, je te jure. Puis ça, si tu fais un transfert international, un wire ou un IBAN ou un whatever, là, ça c'est ridicule. Là. Ça prend entre 2 et 7 jours. Puis il te pose genre 20 questions. Puis quand si tu as un nom qui a une erreur dedans ou tu as l'adresse de la personne qui n'est pas là, ça t'en revient un autre 4-5 jours plus tard. Il faut que tu recommences. Puis il te charge les deux bords.
Ouais.
Ça, c'est en tout cas,
c'est quelqu'un qui peut répondre à ça, je sais pas, là, contactez Pat sur le Discord, venez nous jaser sur le prochain podcast, là, mais moi, j'aimerais bien ça avoir de la lumière là-dessus, ça m'intrigue.
Ouais. Je sais pas la réponse, mais ouais, ça serait le fun d'avoir un peu plus. Ouais, je trouve pas le numéro, fait qu'il sortira à un moment donné, là. C'est très drôle. Non, ça va pas nulle part. Fait que, ben, vous checkerez dans les show notes, parce qu'il sera pas dit dans l'épisode. Écrivez-nous ou appelez-nous. Puis, dans les prochains épisodes, bon, on fera une autre revue de livres, comme on parlait. Puis, on espère avoir des petites questions pour répondre à cela. Fait que, merci tout le monde. On se voit dans 2 semaines.
Bye tout le monde.
Salut tout le monde.
Ciao. Mais non.
Weird out.
Ah, ok, je pense que tu m'oubliais.
Eh non!
J'y intéresse.
Ah,
ok. The French Connection.
Thank you. The French Connection.